marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Première règle du bon usage de l'histoire simple et brutale, savoir que le passé est là.
La genèse des Misérables.
Il y a deux questions. Question de l'éducation, question de la pénalité. Et, entre ces deux questions, la société tout entière. Réfléchissez. Messieurs des centres, messieurs des extrémités, le gros du peuple souffre. Que vous l'appeliez république ou que vous l'appeliez monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. Donnez au peuple, pour qui ce monde-ci est mauvais, la croyance à un meilleur monde fait pour lui.
Les questions de l'éducation, de la pénalité, de la prostitution, c'est un roman Les Misérables où les idées et les questions engendrent les personnages et ensuite les personnages produisent le drame. C'est un roman, soit, mais comme ce livre est fait pour tout dire, c'est aussi un livre d'histoire politique et sociale à la fois. Pourquoi, demande Hugo, l'une serait-elle de bronze et pas l'autre? C'est en fait un livre religieux. L'auteur l'affirme tout en haut de l'une des préfaces qu'il destine à la première édition en 1862. Dès l'épisode chez l'évêque de Digne, Mgr Myriel, épisode qui est un ensemencement, chaque intrigue baigne dans un climat de rédemption, une lumière divine. On sait quelles images suggèrent quasi automatiquement Les Misérables. C'est une montagne, un océan. Allez, choisissons celle du fleuve. Hugo fait le pari que le livre s'enrichira des alluvions que déposeront les générations de lecteurs. Et il pense qu'il deviendra un delta qui avancera dans la mer. Et que Dieu, à moins que ce ne soit lui-même, Hugo, régnera sur la confluence des eaux. L'exercice que s'est imposé notre invité dans son édition des Misérables de la Pléiade, la première depuis 1951, est d'autant plus difficile. Il s'agit d'aller à rebours du courant, si fort fut-il, et de tenter de remonter à la source, aux sources des Misérables, avant le texte livré aux éditeurs en 1862 et qui s'intitulait donc Les Misérables. Il y eut en effet une première version rédigée entre 1845 et 1848. Elle se nommait Les Misères. Et avant Jean Valjean, il y eut Jean Tréjean et même un moment Jean Vlajean, embarquement pour une genèse.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Henri Sépi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous dites souvent que les grands livres ne sont pas des objets, mais des histoires, qu'ils n'existent que par leur rapport à leur lecteur. Et vous, alors?
Oui, en effet, je crois que les grands livres n'ont de sens, de consistance et de valeur que d'être effectivement le produit, le fruit d'un attachement à un ou plusieurs lecteurs, mais en l'occurrence à un lecteur. Il s'agit toujours effectivement de rendre compte d'une expérience de lecture qui ne peut être dissociée le plus souvent de ce qu'est notre vie, de ce que représente notre existence en tant que forme et en tant que sens.
Alors je reviens à ma question, et vous? Parce que vous publiez un cahier d'illustrations, et dans les illustrations, il y a les lavis, les encres de Hugo. Moi, soudain, quand je les ai vus, je me suis rappelé ma première lecture dans la collection L'Intégrale du Seuil. Il y avait ces 4 ou 5 lavis qui présentaient des types, voilà, des généralités. Vous, votre premier rapport aux Misérables?
Alors, si je dois remonter effectivement à ce premier rapport, donc
à la source,
donc revenons effectivement à ce berceau. Il s'agit d'abord, bon, comme vous, essentiellement d'une lecture qui illustrait, hein, et par extrait. Nous commençons tous par là. Les grands livres sont aussi des livres monstres, comme le dira Hugo, des livres immenses par leur valeur et leur volume. Et donc, par extrait, qu'une façon effectivement de comprendre qu'il y a des blancs, qu'il y a des intervalles et qu'il faut les combler le plus vite possible. Alors, l'imagination y supplée dans un premier temps et puis très vite le désir effectivement d'aller voir, d'aller lire l'intégralité. Alors, je dois vous le dire sans embâge, sans rien vous cacher. La première fois, première lecture intégrale, certains chapitres semblent longs, un peu lourds, etc. Et on y revient pressentant qu'il y a en effet...
un massif de sens.
Voilà, sous le massif, un gisement. Et Hugo est là tout entier, en effet. Hein, cette espèce de relief très, très, très présent et qu'il faut effectivement essayer de vaincre.
Et c'est comme ça que vous êtes entraîné avec votre coturne Dominique Monconduit.
Absolument,
qui a,
oui.
Pilote piloter cette édition de la Pléiade avec vous, un peu comme les haltérophiles, vous savez, qui soulèvent peu à peu. C'est un lecteur des Misérables, c'est un athlète.
C'est un athlète, ou d'ailleurs le terme est employé par Hugo, hein, c'est lui qui utilise cette métaphore. Et avec Dominique Monconduit, en effet, nous avons tous les deux soulevé les poids, les haltères, en un exercice d'ailleurs assez harmonieux et amical. Hein, car
vous avez cherché ensemble le foyer primitif, vous l'avez trouvé dans des histoires, parce qu'il y a les idées, les questions, mais aussi les histoires. 1841, un jeune homme cossu qu'aperçoit Victor Hugo, joue avec de la neige et il envoie une boule de neige dans le dos d'une prostituée pour la provoquer, pour se moquer d'elle. Et c'est Fantine.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle communément l'origine de Fantine. C'est donc effectivement cette scène, cette première scène que Hugo aperçoit en 41. C'est un moment où il est là, il attend une voiture pour pouvoir... Il neige. Bon, le temps, évidemment, est terrible. Et donc, il voit ces choses-là. Et tout part de choses vues, de scènes saisies sur le vif et auxquelles s'attache, s'agrège l'idée, hein, c'est-à-dire en fait la dynamique de la pensée.
Se rendant à la Chambre des Pairs, parce qu'il est pair de France, nommé par Louis-Philippe.
Absolument.
C'est une notabilité politique, comme disait Karl Marx. Il va à la Chambre des Pairs, il voit un homme qui est conduit au poste, parce que l'homme a volé un pain. Et c'est d'ailleurs, dites-vous, sur un banc de la Chambre des Pairs, le sien, qu'il a l'intuition de ce poème séminal, L'ensemencement, Mélancolia, dit par Denis Podalydès.
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Accroupi sous les dents d'une machine sombre, monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l'ombre, innocent dans un bagne, ange dans un enfer. Il travaille. Tout est d'airain, tout est de fer. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue. Aussi, quelle pâleur. La cendre est sur leurs joues. Il fait à peine jour, ils sont déjà bien là. Ils ne comprennent rien à leur destin. Hélas. Ils semblent dire à Dieu: petits comme nous sommes, notre Père, voyez ce que nous font les hommes.
Alors, faisant place à ce poème dans les contemplations, plus tard il dira à sa famille, ça c'est la source.
Oui, voilà, c'est du moins ce qu'on rapporte. Hein, c'est effectivement la matrice, on va dire, hein, le point de départ, hein, le foyer. Hein, c'est ce foyer originel auquel vous avez effectivement associé ces deux scènes importantes, mais le tout arrive effectivement au moment même où Hugo est bien convaincu que la réflexion désormais doit se répandre, hein, et de façon vigoureuse sur ce terrain de la question sociale, hein, c'est-à-dire intéressons-nous à ces gens qui souffrent.
Mais enfin, lui-même, au moment où il va commencer la rédaction, vit des expériences désastreuses. Est-ce que vous voulez qu'on entende un instant rappel, nostalgie, Alain Decaux?
Ils entrent dans la salle de l'auberge, ils commandent une bouteille de bière. Et là, sur la table de l'auberge, il y a des journaux. Alors elle, Juliette, prend le Charivari, qui est un journal humoristique, et lui prend un quotidien, Le Siècle. Il s'enfouit derrière ce quotidien. Elle est en train de lire lorsque tout à coup, elle entend quelque chose d'affreux qui vient de derrière le journal. Ça n'est pas un cri, ça n'est pas un gémissement, c'est indéfinissable. Et il baisse le journal. Et il ne peut pas parler, et il montre le journal. Et elle regarde, elle voit le titre. Mort accidentelle de la fille de Monsieur Victor Hugo. Et puis peu à peu, la vie recommence. Et une soirée, une jeune femme, épouse d'un peintre, elle s'appelle Léonie Billard, elle est toute jeune, 23 ans. Lui a maintenant 42 ans. Et elle est malheureuse, Léonie. Deux êtres malheureux ont tendance à se rejoindre et ils vont se promener dans Paris. Personne n'a mieux connu Paris que lui. Et le soir vient, elle est à lui. Et tout à coup, on martèle la porte. Ouvrez ! Ouvrez ! Au nom du roi, ouvrez !
Voilà Léonie qui a pris un peu la figure de Léopoldine, la fille disparue en 1843, qui fait avec Victor Hugo, pair de France, en 1845, l'objet d'un constat d'adultère. Alors, c'est très grave à l'époque. Léonie va être emmenée un moment à la prison Saint-Lazare et Victor Hugo va se cloîtrer, quoi. Parce qu'il ne peut plus avoir de vie mondaine.
Oui, c'est cela. C'est un moment difficile, extrêmement difficile pour lui. D'autant que la période même, si vous voulez, dans laquelle s'insèrent ces épisodes, est une période de dépression tout de même. Il est un peu en retrait. Les jugements le concernant sont, bon, sinon négatifs, du moins, voilà, mêlés. Hein. On se demande s'il est encore en situation d'apporter quelque chose, de se renouveler. Bien, et... arrivent ces épisodes dramatiques que d'ailleurs la narration d'Alain Decaux permet de souligner avec beaucoup d'emphase. On voit bien que là, quelque chose se passe, si vous voulez, qui permet tout d'un coup de remettre en perspective la mort de Léopoldine dans une logique de rachat. Comment est-ce que je peux racheter cela? Comment est-ce que je peux retrouver cette innocence?
Sainte-Beuve disait, après cet éclat, il fallait qu'il recouvre d'une œuvre éclatante l'humiliation.
Oui.
Et rachat, oui, mais enfin, oui. Juliette est toujours là.
Certes.
Elle va jouer un rôle dans la première rédaction des Misérables.
Absolument.
Et Léonie est toujours là, parce qu'elle est sortie de Saint-Lazare. Et elle va collaborer en apportant de la documentation.
Tout à fait.
Ce sont deux années assez denses, de 45 à 48, de rédaction.
De rédaction, voilà. Effectivement, le roman donc qu'on va, si vous voulez, appeler Les Misères, hein, donc
dans cette version,
voilà, dans cette version initiale, est commencé donc en novembre, le 17 novembre 1845, et il se poursuivra en effet jusqu'en février 48, avec plus ou moins d'intensité, mais c'est une première phase. Et de fait, on voit bien que le propos, l'objet de ce récit, c'est bien sûr, de façon simplifiée, parfois même épurée, de mettre en scène, en effet, hein, quelques figures, Jean Valjean, qui est encore Jean Tréjean, qui apparaît dans sa version première, et les autres personnages clés du drame, Marius, Cosette, Fantine.
Il va poser la plume avec la Révolution de février 48 et se consacrer de plus en plus à la vie politique. Vous parlez des principaux personnages, juste un mot peut-être de Fantine. Fantine, elle apparaît déjà dans Les Misères, première version.
Oui, absolument, oui bien sûr. Oui.
Parce que là, à cet instant précis, vous ne pouvez pas ne pas entendre un extrait de la comédie musicale que vous citez d'ailleurs d'abondance dans votre filmographie. Dans votre volume de la Pléiade, c'est complet maintenant, les Pléiades. Nous sommes chez les Thénardier, à Montfermeil.
Mamselle Crapaud, range ton balai et ton seau. Il est trop tard pour faire semblant de faire le ménage. Ce soir, je te conseille d'être très très gentille et souriante avec les clients. Sinon, gare à la trique et au lit sans manger pour t'apprendre à rêver. Chien faute de nom, j'ai trouvé à t'occuper. Cours me remplir ce seau dans la forêt. Venez donc près de moi, mes jolies, mes poulettes, Éponine, Azelma, mes petites peluches, que je vois comme vous font vos nouvelles fanfreluches. Éponine, tu es belle dans cette robe de dentelle, Azelma, mon amour, as-tu fait ta lettre au Père Noël? Cette souillante voudrait bien toucher à vos poupées, mais je me charge d'elle si jamais elle essaie. Alors Cosette, tu n'es pas encore partie. Je n'aime pas répéter deux fois ce que je dis.
Il fait si noir.
Ne discute pas et va me remplir ce seau. Et si tu vois le loup, salue-le bien bas pour nous.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Henri Seppi qui, en compagnie de Dominique Monconduit, produit une édition nouvelle des Misérables dans la bibliothèque de la Pléiade. On en était resté aux misères. Il y a déjà... les grands linéaments qui sont présents, l'histoire d'un saint, d'un homme, l'histoire d'une femme, l'histoire d'une poupée.
Oui,
la poupée,
oui.
L'objet transitionnel, c'est déjà là. Et puis, à partir de 48, 1949, Victor Hugo laisse reposer le texte, il l'emporte dans une malle en exil, quand après le coup d'état de 1851, il quitte la France pour les îles anglo-normandes. Mais dites-vous, Les Misérables demeurent au second plan, en filigrane.
Oui, absolument. Les Misérables ne sont pas... Enfin, le texte interrompu, le roman tel qu'il a été conduit jusqu'en 1948 et interrompu, continue de l'occuper dans le sens où il y pense. Il dit vouloir se consacrer exclusivement à la vie publique et renoncer effectivement à la poésie, à la littérature. Ses mandats, donc, le requièrent.
Ça, c'est pendant la Seconde République. Voilà, la Deuxième République.
Bon, et il voudrait effectivement aller jusque-là, mais... on voit bien que l'accélération du tempo de l'histoire va décider autrement des choses et ramener très vite, non pas au devant de la scène, mais disons dans l'entre-deux, cette ombre portée des Misérables. Voilà. Et qui va effectivement continuer de le hanter sourdement pendant toute la décennie 1850.
Alors en exil à Jersey, avant Guernesey, il réside dans une maison où l'après-midi et le soir... Les tables vont tourner et parler.
Charles et Madame Hugo tiennent la table. Présent, Victor Hugo, Guérin.
Qui est là ?
La mort.
Développe les hauts conseils que tu me donnes. Je les écoute comme il convient. Nous t'écoutons.
Fais de ton œuvre une des cheminées de l'âme humaine. Que la terre endormie, ouvrant à demi ses yeux lourds, aperçoive à l'horizon ton toit couvert d'un nuage d'astres et d'ise.
Daniel Émile Forque dans le rôle de la mort en septembre 1953. On aurait aimé l'entendre dans le rôle de la civilisation qui dit quelque chose à Hugo à propos des Misérables, cette même séance de septembre 1953.
Oui, absolument. Cette séance de septembre 1953 est tout à fait notable et remarquable puisque la civilisation apparaît, elle déclare, à la demande d'ailleurs de Victor Hugo, qui lui soumet quelques interrogations, demandant quel doit être l'avenir par exemple de l'enfant et de la femme dans les sociétés modernes, c'est-à-dire est-ce que ce ne sont pas là vraiment les deux grands pôles qui doivent aimanter la réflexion. Et la civilisation répond dans une formule tout à fait incroyable, grand homme, termine les Misérables, termine les Misérables. C'est-à-dire qu'en fait, l'injonction, ici, vaut réponse. Il s'agit bien, en effet, de traiter ces deux grandes questions, la situation de la femme et la situation de l'enfant dans une société qui ne recule devant aucun asservissement, en achevant les Misérables. Voilà, et c'est ça. Hein,
Alors après, les contemplations, qui ont beaucoup de succès, lui permettent d'acheter sa maison à Jersey, d'être tranquille, d'une certaine manière, oui. Il n'est plus menacé d'expulsion. Après la légende des siècles, il va se remettre aux Misérables, ressortir de la malle le livre, et le manuscrit, vous le connaissez, il est d'ailleurs en ligne. On n'arrive plus à bien distinguer ce qui est correction, réécriture, tout ça, les Misérables, ça va se superposer au manuscrit des Misères.
Oui, voilà, exactement. Il n'y a pas deux manuscrits, si vous voulez. Hugo reprend son texte, hein, donc il ouvre cette malle au mois d'avril 1860, et il fait ce qu'il appelle une lecture préalable, donc qui va l'occuper un certain temps, bon, et puis très vite... commence effectivement la phase de réécriture, la lecture se fait plume en main. Et on constate à la lecture du manuscrit qu'il y a en effet des couches, des chevauchements, des annotations marginales, des suppressions. Bien, il est difficile en effet de bien faire le départ entre l'écriture primitive, ce qui est venu s'ajouter avant l'exil, puisqu'il reprend certains des chapitres écrits de 45 à 48, pendant cette période-là, et ce qui a été effectivement composé à partir de 1860. Hein, bon. Donc il y a simplement, et les éditeurs historiques des Misérables l'ont fait observer, enfin il y a différentes graphies, au moins deux graphies d'avant l'exil, qui sont facilement identifiables, plutôt élégantes, très fines, bon, un trait de plume assez, assez fin, et les graphies de l'exil qui sont nombreuses, comme vous savez, et qui parfois, pour certaines du moins, confinent au dessin.
Il silhouette d'ailleurs, par la vie de l'encre,
oui.
Certains de ces personnages. En 1861, donc il a avancé dans ce travail qui le requiert tout entier maintenant, il part en Belgique,
oui.
Avec entre autres intention celle de visiter Waterloo.
Oui, c'est ça, absolument. Il a l'intention de se transporter sur les lieux de la scène qu'il veut écrire, c'est-à-dire ce grand livre, Waterloo, qui est véritablement le produit de ce séjour belge. Et là, il s'y attelle. Il visite les lieux, il se laisse imprégner par l'atmosphère de ce site, et il écrit le livre Waterloo à ce moment-là. C'est un moment capital, je pense, parce que c'est non seulement là qu'il achève, comme il le dira, les Misérables, mais il arrive à donner, à partir de ce moment-là, une vision, une nouvelle vision de l'histoire. C'est-à-dire que le livre Waterloo déplace sensiblement l'axe de la perspective historique. Voilà. Et permet de lire ce roman, non plus comme c'était le cas avant l'exil, comme un roman de la monarchie de Juillet, mais comme un roman prenant sens par rapport à une réécriture de l'épopée napoléonienne dans sa phase terminale.
Livre 5, 1815. Première partie, 1815, octobre, Jean Valjean va à Digne et il va voler les chandeliers, l'argenterie de l'évêque, Monseigneur Myriel, qui l'a accueilli. Alors on va prendre ce moment séminal pour que vous nous disiez ce qui relève des Misères, qui étaient déjà écrits, et comment les Misérables ont enrichi la présentation de la personnalité de Monseigneur Myriel. Que des grands acteurs aujourd'hui. C'est Lonsdale, dans l'excellente version des Misérables de France Culture, qui a été dirigée il y a peu par François Christophe.
Comme ils allaient se lever de table, on frappa à la porte. Trois hommes en tenaient un quatrième au collet. Les trois hommes étaient des gendarmes. L'autre était Jean Valjean.
Monseigneur ?
Monseigneur ?
Silence, c'est Monseigneur l'évêque.
Ah, vous voilà. Eh bien, je suis bien aise de vous voir, Jean Valjean. Mais je vous avais donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec vos couverts ?
Ce que cet homme disait était donc vrai. Nous l'avons rencontré, il allait comme quelqu'un qui s'en va. Nous l'avons arrêté pour voir, il avait cette argenterie.
Et il vous a dit qu'elle lui avait été donnée par un vieux bonhomme de prêtre chez lequel il avait passé la nuit. Moi, je vois la chose. C'est une méprise.
Comme cela, nous pouvons le laisser aller ?
Sans doute.
Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse aller ?
Oui, on te laisse. Tu n'entendons pas ?
Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir.
N'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme.
Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir rien promis, resta interdit.
Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous achète. Je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu.
Exercice pratique, Henri Sépi. Ce pacte de rédemption qui va infuser tout au long du livre, il est déjà dans les Misères ?
Oui, absolument. Il est tout à fait là. Je veux dire, mais un moment important dans les Misères, c'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, le roman dans sa version initiale commence par l'arrivée de Jean Valjean à Digne, donc en octobre 1815, et toutes les scènes qui s'ensuivent jusqu'à l'arrivée effectivement chez l'évêque. Et c'est au moment où il pénètre chez l'évêque que, à la faveur d'une rétrospection, nous est racontée la vie de l'évêque. Bon, cette figure est un peu à l'arrière-plan, ou du moins légèrement décentrée par rapport à l'axe, je dirais, significatif de la narration. Et puis, Hugo comprend que cette perspective qui est très catholique, si vous voulez, dans un premier temps, il doit, avec l'exil, lui donner cette profondeur, cette épaisseur de mystère.
Et là, on en vient à la seconde version.
Voilà, dont il est désormais lui-même le siège, parce qu'il est familier de cela. Et donc, il va un petit peu dépasser, je dirais, l'assise du dogme, hein, notamment la problématique de la rédemption telle qu'elle peut être ici rappelée, pour montrer comment Jean Valjean, grâce à l'intercession de l'évêque, va accéder bien évidemment à sa propre lumière, mais non sans mal, non sans difficulté. Les choses se font progressivement. L'ensemencement, comme vous disiez tout à l'heure, va avoir des effets, mais des effets à retardement. Ça ne vient pas tout de suite.
Ben oui, mais là, je vous cite encore, parce qu'ensemencement, c'est un mot qui vient sous votre plume. Le mal constitue le ferment d'élévation. C'est ça qui permet l'exaucement.
C'est ça, exactement.
Et dans la version Les Misères, l'évêque, qui n'est pas encore enrichi de beaucoup de points de vue, il ne confesse pas l'ancien conventionnel.
Non, non, voilà.
Justement. Et là, dans la version Les Misérables, voilà que la Révolution française entre dans le grand plan spirituel.
Voilà. Alors là, c'est vraiment le tour de force de Victor Hugo que d'avoir modifié l'évêque. Hein, c'était d'ailleurs dans son cahier des charges des modifications à apporter donc au texte des Misères. Il y avait modifié l'évêque et donc en le mettant face à ce conventionnel qui est effectivement l'expression la plus terrible de la Révolution, qui est l'expression de 93.
Il est dans le diocèse de Digne, il a fini sa vie là.
Voilà. Et donc ces deux figures vont effectivement se faire face, dialoguer, et tenez-vous bien, l'évêque demande au conventionnel sa bénédiction. En une scène tout à fait incroyable.
Alors voilà un exemple de ce qu'éclaire votre édition. Et puis vous racontez aussi comment la publication s'est faite, très organisée, avec un plan qui impliquait des éditeurs à Bruxelles, dont le grand Albert Lacroix, et puis des éditeurs à Paris, oui. Bagnères, qui avait racheté le contrat, parce qu'il y avait eu un premier contrat au temps des Misères en 1847. Tout ça est organisé comme du papier à musique. Hein.
Oui, disons que oui, voilà, Hugo est tout à fait conscient des réalités nouvelles, je dirais, de l'édition. Il n'est pas du tout ignorant de cela. Il s'adresse d'ailleurs à des éditeurs, enfin il confie, disons, son ouvrage à des éditeurs qui eux-mêmes sont des éditeurs modernes et qui s'entourent de conseillers, qui savent aussi mettre en place une campagne de publicité qui tire habilement parti des caricatures de presse, hein, dont nous donnons quelques extraits, enfin quelques illustrations dans notre cahier iconographique. Hein, Dominique Monconduit a réalisé ce cahier, il a commenté, donc les choses sont très, très nettes, très claires. Il s'agit effectivement de tirer habilement parti de ces caricatures qui ne sont pas toujours, bien sûr, en faveur d'Hugo, mais qui, bien évidemment, plaide aussi la cause des Misérables.
Les critiques n'ont pas toujours été en faveur d'Hugo. Vous citez Lamartine, citez Barbet de Rovilly, terrible, Flaubert, très aimable. Mais, et on pourrait finir là-dessus, peu de temps après, il y a un jeune lecteur, son professeur lui a donné Les Misérables, sa mère est très mécontente. Enfin, on ne donne pas ça à un petit Arthur. C'est Rimbaud.
C'est Rimbaud, oui, voilà. Oui. Alors là, pour revenir effectivement au rôle décisif que ce livre a pu avoir sur le jeune lecteur, sur Rimbaud, c'est capital. Je pense qu'effectivement, La Saison en Enfer, par exemple, c'est ce que nous rappelons dans l'introduction, La Saison en Enfer résonne des accents du chapitre Une tempête sous un crâne, sinon on pense à La Nuit de l'Enfer. Et au-delà même, il y a un rayonnement, il y a une diffusion, je dirais, des trépidations hugoliennes dans l'écriture de Rimbaud, qui est tout à fait remarquable. C'est quelqu'un qui a lu Rimbaud, qui le connaît bien, qui l'a parodié. Et dans La Saison, qui est quand même l'œuvre de Rimbaud, qu'on considère comme peut-être un point d'achèvement tout à fait remarquable, il y a Hugo.
Merci à vous Henri Seppi, donc votre édition de La Pléiade des Misérables. L'émission était préparée par Adèle Kaito, avec à la technique Michel Bézikian, à la réalisation Audrey Ripouille.